Les petites histoires font les grandes histoires. Claude Perronnet nous raconte nos histoires de vie, les racines de la région, avec petites et grandes histoires de la Basse Marche.
Bonjour à tous et merci de nous rejoindre pour cette nouvelle chronique des petites et grandes histoires de la Basse Marche, consacrée aujourd'hui à quelques éléments de la modernité jadis en Basse Marche. Ce sera notre 257e émission et notre 171e chronique. Pour les textes, nous avons fait appel aux auteurs et aux ouvrages suivants: Louis Peignot, Bergère, Éternelle Bergère, et De la vallée de Georges Sand aux collines de Jean Giraudoux. Charles Sylvestre, La prairie et la flamme et le voyage rustique. Jean Leur, Un parfum de récré. Claude Lacan, Histoire du chemin de fer en Limousin. Et de nombreux emprunts à l'ouvrage La Basse Marche de tous les temps.
La Basse Marche a plein d'histoires à raconter. Écoutez-les avec petites et grandes histoires de la Basse Marche.
C'est par les machines que nous allons nous intéresser à l'arrivée de la modernité en Basse Marche. L'arrivée des machines agricoles, comme la faucheuse, la moissonneuse et bien sûr le tracteur. Les évolutions de la vie domestique avec l'arrivée de l'électricité. Dans nos campagnes, l'arrivée de l'eau courante sera beaucoup plus tardive, mais encore de la cuisinière ou de la lessiveuse ou du gaz de ville. Les outils de la mobilité avec le train, le tram, l'automobile ou la bicyclette, les éléments du loisir que seront le phonographe, la TSF ou le cinématographe.
Petites et grandes histoires de la Basse Marche.
La lessiveuse, la cuisinière, la faucheuse, voici quelques éléments de la modernité dont nous parle Louis Peignot dans Bergère, Éternelle Bergère. Quand Pierre Decouze eut cette année-là vendu ses bœufs gras à la foire d'avril, Françoise le mena chez le quincaillier pour acheter une cuisinière, une lessiveuse, une lampe à suspension avec un gros abat-jour de porcelaine fine. Personne encore n'en avait au village et le soir, toutes les voisines accourèrent pour les voir. Dans le fournil, la lessiveuse prit la place de l'énorme et ventru cuvier de terre bleue. Plus besoin de recueillir les cendres du foyer pour la lessive. Les cristaux de l'épicier mirent longtemps à obtenir la faveur des vieilles femmes fidèles aux pratiques ancestrales. Elles se bornaient à deux grandes lessives par an, alors que Françoise allumait chaque semaine le fourneau de sa lessiveuse. Le mois de juin 1914 vit apparaître au domaine une machine de fer peinte en rouge vif qui fit l'admiration des gamins. Les faux luisantes restèrent pendues au barreau de l'échelle dans la grange et les hommes ne se levèrent plus avant le jour pour aligner dans la rosée du matin les andins d'herbes mûres et serrées. La faucheuse qui harassa les bœufs soulagea la peine des hommes. Les femmes vinrent encore faner, rateler, mais elles ne montèrent plus sur les hautes charrettes branlantes. Tout au plus eurent-elles à s'enfoncer dans la barge sombre pour tasser le foin et recevoir les fourchets que les hommes, du haut de la voiture sur l'air de la grange, leur lançaient à plein bras. Quand les tracteurs ont détrôné les chevaux et les bœufs. dans nos régions, les tracteurs apparaîtront vraiment dans les années 1960. L'arrivée du cheval vapeur ne se fait pas sans heurts autour de la table familiale. Elle marque souvent un conflit de génération entre les parents, attachés à leur pratique, et leurs successeurs, pour lesquels l'exploitation ne peut se concevoir sans les moyens de production performants dont le tracteur est l'incarnation. La cohabitation entre les animaux de trait et le tracteur est éphémère. Car le tracteur n'est que le premier maillon d'une chaîne d'outils sans cesse accrue. De la herse à la charrue, de la barre de coupe à la presse à fourrage, de la fourche à fumier au semoir, ces véritables usines ambulantes modifient les moyens de production, bouleversent la nature du travail agricole et créent une rupture dans la socialisation paysanne. Car si de nombreux outils qui accompagnent le tracteur peuvent être achetés en commun, le tracteur, lui, reste individuel. Enfin, ces impacts sont aussi paysagers. L'accès aux parcelles et à leur agrandissement, l'abattage des haies, le délaissement de terrains non mécanisables et les aménagements des corps de ferme pour loger les tracteurs et ces outils ont transformé en quelques décennies des constructions pluriséculaires. Dans le voyage rustique, Charles Sylvestre nous conduit à la recherche d'un tracteur. Vous voulez voir de vos yeux un tracteur et vous aurez ce plaisir. Un de mes voisins vient d'acquérir à Beaudenier un tel monstre. Il fait merveille. Je parle de mon voisin. Dans nos pays, cette admirable machine ne rend pas. Il faut reconnaître qu'elle est très utile en d'autres lieux, mais il importe de garder quelques mesures et de ne pas dire comme un de mes amis féroces agriculteurs « j'arriverai à me passer ou à peu près de main-d'œuvre ». Ce serait curieux, quand même, le travail de la terre sans paysan. Nous arrivons dans la cour d'un château, nous entrons dans un salon à boiserie, la maîtresse du logis vient à nous. Mon compagnon brûle de voir de ses yeux un tracteur. Elle parut charmée de ses paroles, elle souriait comme au compliment le plus délicat du monde. Elle promit de nous guider, assurant que son époux chargeait du bois près d'ici au moyen de cette machine. Elle prit place au fond de notre voiture. Elle emportait un gros ouvrage d'agriculture pratique. Mon ami partit à très bonne allure. Après une randonnée farouche, l'aiguille du compteur ne quitta guère 80. Nous fûmes obligés de constater que le tracteur ne se profilait pas à l'horizon. Il importait de découvrir les traces que le tracteur avait laissées. Hélas, nous ne relevions que des empreintes de troupeaux, de pattes de poules ou de chiens coureurs, ce qui était bien décevant. Il continua de conduire prudemment sa voiture à la manière d'un homme qui épie, et comme il était près de midi, nous nous arrêtâmes dans un hameau en jetant quelques cris discordants. Des habitants accoururent au bruit, un campagnard coiffé d'un chapeau rond survint. « Avez-vous vu le tracteur ?» demanda madame d'une voix exquise. « Ben oui, oui bien, » dit le vieux. Il est du côté de Beaufont. Allez tout droit et virez à gauche, vous trouverez un méchant chemin, pas propre. Ah, que le bon Dieu vous aide. Ils arrachent un arbre tout comme une dent avec sa racine. Madame lui fit un charmant sourire. Mon ami repartit à toute vitesse. Enfin, madame s'écria. Ah, j'aperçois ses traces. Il n'y a pas de doute, c'est lui. « Moi aussi, » opina mon ami. Il remue la terre comme un sanglier. Au tournant de la route, le tracteur se dressa, monstre camus. Chose curieuse, il était surmonté d'une capote de vieille calèche, très Second Empire, ce qui lui donnait une certaine bonhomie, si l'on peut dire. Mon ami arrêta la voiture au bord d'un talus. Tous ensemble, nous allâmes féliciter le propriétaire du tracteur. Il ne s'attarda point à parler. du bois en grume était rangé devant une remorque. Un homme débrouillait les câbles en fil d'acier. Il en lia l'extrémité des arbres coupés. Les câbles furent accrochés au tracteur qui démarra, conduit par le gentilhomme paysan, et s'engagea dans un sentier de traverse, ses roues broyant le sol et s'y agrippant. Les liens de métal se tendirent et le bois monta comme par enchantement sur la remorque au moyen des barres qui s'y appuyaient. Ce chargement, qui eût exigé une troupe de garçons solides, fut achevé en peu de temps. Madame nous fit remarquer que les roues du tracteur avaient rentré leurs griffes de fer. Elles s'ouvrent quand il s'agit de labourer. Demain, j'irai travailler avec mon mari. Des paysans tout ébaudis regardaient, se tenant prudemment à une distance d'environ 100 mètres.
Petites et grandes histoires de la basse marche.
Pour marquer l'arrivée de l'électricité en basse marche, ce petit texte de Louis Peignot à propos de Château-Ponsac, la ville lumière. Château-Ponsac était devenu une ville lumière. C'était autour de 1900, dans les gorges que dominent les pittoresques villages de la Gorce et d'Ozillac, un barrage s'éleva. L'événement était aussi de taille pour les hommes. Les poteaux escaladèrent la rive abrupte de la rivière, de longs fils coururent vers les hauteurs, vers les villages voisins et la petite ville. Chaque dimanche, les promeneurs affluaient pour voir l'antre de ce merveilleux sorcier, l'électricien. On formait la chaîne des mains à 5 ou 6 et il vous faisait éprouver des effets de son courant mystérieux. Sous la secousse brutale, les femmes et les gamins ne pouvaient s'empêcher de crier. Les machines ronflaient et ronflent toujours. De ce jour, plus de confort pénétra dans cette contrée jusqu'alors inhospitalière. De loin, la nuit, on contemplait sur son promontoire Château-Ponsac qui brillait sous la lumière de ses lampadaires électriques. La petite ville daigna laisser un peu de lumière à Ozillac, le vieux village qui était pourtant en querelle avec elle depuis si longtemps.
Il a fallu 6 mètres de forge barbue, 20 banquiers jouant à la baisse, des quantités d'impôts en plus et 12 campagnes de presse. Il a fallu 10 ingénieurs.
La modernité, c'est aussi la mobilité, et d'abord avec le train et le tram. C'est en 1831 que se déroule le premier essai de chemin de fer. Mais il faudra attendre 77 ans, septembre 1908, pour que le chemin de fer arrive à Magnac-Laval. L'homme, un paysan de la basse marche, s'appuya sur le manche de sa houe et cligna des yeux pour mieux voir le grand soleil qui inondait la campagne. Là-bas, au bout du champ, une calèche venait de s'arrêter dans un nuage de poussière blanche. 4 hommes, vêtus de sombre, en descendaient. Ils examinaient le terrain et l'un d'eux plantait un piquet. C'était donc vrai. Le chemin de fer allait passer ici, couper la colline, franchir la vallée. Cette scène allait souvent se répéter un peu partout en Limousin avec l'arrivée des géomètres venus préparer le tracé de la ligne. Essayons d'imaginer le choc qu'a apporté l'arrivée du chemin de fer dans ce pays déshérité, essentiellement rural, où les nouvelles et le progrès ne pénètrent qu'avec une sage lenteur. Aller à Paris était une véritable expédition. La plus grande vitesse que l'on puisse atteindre est celle d'un cheval au galop. Les routes sont alors dans un état déplorable. pratiquement rien n'a été fait depuis Turgot. Et voilà qu'on nous annonce la venue du chemin de fer, ces monstres de fer et de feu. Des convois de plus de 10 diligences roulent à vitesse effroyable, sautent les rivières, traversent les montagnes dans des souterrains noirs et terrifiants. Le soir, à la veillée, quand les vaches sont rentrées à l'étable, que la traite est faite, autour de la cheminée où dansent les flammes, le chemin de fer alimente les discussions. Les colporteurs ont évoqué ces engins étonnants. Le facteur qui sait lire a annoncé la grande nouvelle parue dans la Gazette. Ils vont construire une ligne qui permettra d'aller de Limoges à Paris. Et puis il y a les premiers émissaires de la compagnie qui ont acheté des terrains. Cette fois, c'est vraiment sérieux. C'est décidé. La ligne passera en bas du village, dans les prés du baron. Il paraît même qu'il a hébergé l'ingénieur qui va construire la ligne. Dans notre région, les travaux du chemin de fer ont commencé dans les années 1850. Le 2 juin 1856, la section Argenton-Limoges est ouverte au service des marchandises et le 16 juin de la même année a lieu l'inauguration du service voyageurs. On met alors 10 heures et 14 minutes pour relier les 400 km de Paris à Limoges et 11 heures et 20 minutes dans l'autre sens pour relier Limoges à Paris. Il faudra attendre janvier 1881 pour réaliser l'inauguration de la ligne Limoges-Poitiers par Bellac et Le Dora. Et le 13 septembre 1908, donc, pour inaugurer la ligne de chemin de fer du Dora à Magnac-Laval. En Basse-Marche, il y a alors de très grands projets de développement du chemin de fer. Le député-maire de Bellac, M. Labuze, les présente lors de l'inauguration de la gare de Bellac. Outre les 7 km de voie entre Le Dora et Magnac-Laval pour relier les deux parties de la subdivision militaire qui furent réalisées, on prévoit une ligne de 30 km entre Bellac et Confolens et une autre entre Magnac-Laval et Argenton-sur-Creuse ou Saint-Sébastien. Mais ces projets resteront lettre morte. La ligne du Dora à Magnac-Laval fut fermée au trafic voyageurs en 1932, soit 24 ans seulement après son inauguration. Elle fut cependant utilisée pour le transport des marchandises pour l'usine de carton de Magnac-Laval jusqu'en 1988. Quant à la ligne Limoges-Odora par Bersac, Bessines et Château-Ponsac, elle fut fermée aux voyageurs en 1939. Sa fermeture au trafic marchandises se fit en deux temps, en 1970 pour la portion de Château-Ponsac-Odora et en 1987 pour la portion Château-Ponsac-Bessines après la fermeture des ateliers de Château-Ponsac. Il est à noter que notre région du nord de la Haute-Vienne va se doter d'un formidable réseau de chemins de fer départementaux, le tramway, qui fonctionnera de 1912 à 1949 et dont le nœud ferroviaire sera Rancon.
Petites et grandes histoires de la Basse-Marche.
Aux environs des belles années 1910, lorsque le monde découvrait l'automobile, une pauvre femme abandonnée avec ses fils par son mari qui s'était enfui à la ville. Dans une superbe panard et le vassor qu'il conduisait en plein essor, lui écrivait ses mots d'espoir en pensant que peut-être un soir il reviendrait tout comme avant au lieu de partir dans le vin.
La modernité, c'est la mobilité, c'est donc aussi l'automobile, ici avec Charles Sylvestre dans son roman La Prairie et la Flamme. Ils allèrent en hâte chez un marchand d'automobile. Léon Bastier en choisit une qui était à 4 places. « Regarde, Jeanne, dit-il. On appuie sur ce bouton, ça fait la lumière. On appuie sur cet autre bouton et ça met les gaz. Et ces coussins? Ah, vous pouvez vous asseoir dessus. C'est à vous. » Billy et Jeanne prirent place dans l'auto, l'enfant tressaillait au centre d'un prodigieux jouet. Il touchait l'étoffe, le nickel, pour s'assurer qu'il ne rêvait pas. Il fut pris d'un rire nerveux et Jeanne le serra dans ses bras pour l'apaiser. Bastier mit la voiture en marche, il s'arrêta devant une boutique et sauta sur le trottoir. Il revint bientôt, il partit à bonne allure et prit la route de Poitiers. Vous conduisez bien, comment faites-vous?
Oh, tout va ensemble, hein, les pieds, les mains et les yeux.
Je t'apprendrai un jour à conduire. Nous ferons des promenades. L'automobile allait dans un souffle égal. Aux yeux de Billy, les côtes s'abaissaient et se fondaient.
Ça mange la route, dit Bastier. Nous arrivons.
Il franchit la rivière au pont de Chanot. Le soleil tombait dans ses brumes rouges. Bastier faisait mugir continuellement les sirènes et Billy avait la sensation d'être porté par une sorte de monstre. Au loin, les maisons du bourg apparaissaient à travers des arbres dépouillés. Comme l'automobile allait s'engager dans la grand-rue, Vertier, qui menait ses vaches à l'abreuvoir, poussa un grand cri.
« Ah, c'est donc ça ! C'est donc pour ça que vous avez monté un garage en briques derrière la cour.
Quand vous irez chez le sous-préfet, je vous mènerai avec la voiture.
Oh, j'aurais trop peur de me casser la barre du cou.
Elle est donc à vous, cette voiture?
Ah non, on me l'a prêtée peut-être, ricana Bastier.
On l'arrosera quand même avec des bonnes bouteilles. Bastier remit le moteur en marche. Quand il passa devant la maison d'école, monsieur Dinsac, l'instituteur, vint sur le pas de la porte, comme il l'avait prévu. Il s'arrêta et salua l'instituteur.
« J'ai acheté une auto, monsieur Dinsac. Il y a longtemps que j'en avais envie.
C'est le progrès, monsieur Bastier. » Rappelons qu'à Bellac, l'automobile joua un rôle important avec le constructeur automobile Jousset. Monsieur Jousset possédait un garage installé rue d'Enfer-Rochereau à Bellac en 1905. C'est à l'exposition agricole de Bellac de 1923 qu'il présenta et vendit sa première automobile. Après avoir vendu deux autres modèles, il décida de se lancer dans la grande aventure et présenta ses prototypes au Salon de l'Auto à Paris en 1924. Voici ce qu'on peut lire dans la presse de l'époque au sujet de ces deux modèles. Une merveille, la 7 chevaux Jousset. Voici la marque qui, pour un coup d'essai, s'impose sans restriction. Monsieur Jousset, constructeur expérimenté, vient de nous sortir une 7 chevaux qui réalise le dernier mot de la voiture utile, luxueuse, robuste et d'un fonctionnement sûr, présenté avec un souci mécanique remarquable. En 1926, deux automobiles Jousset sont au départ des 24 heures du Mans, mais c'est un demi-échec et quasiment la fin de la firme Jousset qui, au total, n'aura produit qu'une douzaine de véhicules.
Joue-moi ça. Phonographe, phonographe près de toi. Phonographe, phonographe, je revois. Phonographe, phonographe, mes peines et mes joies. La chanson du phono, c'est l'écho de mon cœur qui tourne en rond.
Petites et grandes histoires de la basse marche.
Lucienne Delisle vient de nous chanter la chanson du phonographe, instrument de la modernité si l'on est. Mais bientôt apparaîtra une autre nouveauté, la TSF, la télégraphie sans fil, la radio. Charles Sylvestre, dont de nombreux romans, Pleine Terre, L'amour et la mort de Jean Prado, La prairie et la flamme, traite de l'importance de l'arrivée de la TSF dans nos campagnes de basse marche. Pour apporter la culture, la musique classique, pour distraire les épouses de l'ennui, dans ce pays monotone. dont la prairie et la flamme pour faire plaisir à son épouse, pour essayer de conquérir son amour. Après avoir acheté une auto, Léon Bastier va se procurer un autre symbole de la modernité, la TSF. Le marchand est en train d'installer l'appareil. Il posa l'appareil sur une commode et mit les contacts. Il plaça les lampes et recommanda à Léon Bastier d'observer ses moindres gestes. Vous rendez compte? Mais c'est très simple. Vous aurez les cours de la bourse. Et puis il y a un joli concert. Voulez-vous le programme, madame? On commence par le signe de Saint-Saëns. C'est du violoncelle, monsieur, ajoute le marchand. Ils savent toucher du violoncelle. À 22h, vous aurez le grand d'Aventry. Vous entendrez les derniers Charleston. Tout le monde Charleston. Il faudrait être bien malade pour ne pas danser avec ça. Nous, qui sommes aujourd'hui gavés de télévision et d'Internet, nous avons sans doute du mal à mesurer l'importance de l'arrivée de la TSF dans nos campagnes. Écoutons à nouveau Charles Silvestre dans Pleine Terre. Une telle invention vient au secours des solitaires que nous sommes. Dans nos campagnes, on aime beaucoup la musique. Beaucoup de cultivateurs aisés ont acheté des postes de TSF depuis qu'ils sont plus faciles à régler et moins coûteux. J'en ai vu qui placent ces boîtes magiques dans leur grange et tandis qu'ils sont occupés à traire, à attirer le fourrage, leur bétail dresse l'oreille aux mêmes musiques qui les charment. La plupart écoutent le communiqué agricole et les conférences que donne un poste de Paris avec grand profit et grand plaisir. Ils tiennent compte des conseils et des avertissements qui leur sont lancés à travers l'espace. En dépit de quelques esprits chagrins, cette prodigieuse invention nous apporte plus de bienfaits que de tentations mauvaises. Vous vous souvenez de l'ébahissement de mon métayer quand j'ai installé un premier poste en antenne. Il s'approchait du haut-parleur, sur la pointe des pieds, la bouche arrondie de surprise. Il restait sans voix. Il se grattait la nuque et écarquillait les yeux. Et il penchait la tête avec plus d'effroi que d'émerveillement. Il avait l'air d'apercevoir quelque chose de monstrueux et il me regardait moi-même comme un imprudent. Eh bien, à présent, il rit à cet appareil. Il vient ici, il écoute les cours des céréales et du bétail. Il prend aussi un air de musique comme on prend un air de feu.
Quand j'avais 6 ans, la première fois que papa m'emmena au cinéma, moi je trouvais ça plus palpitant que n'importe quoi. Il y avait sur l'écran des drôles de gars, des moustachus, des fiers à bras, des qui s'entretuent chaque fois.
Dans Le Voyage rustique, Charles Silvestre nous raconte l'arrivée du cinématographe à Peyrat de Bellac. C'est un film muet, style Laurel et Hardy. Jean Leur, dans Un parfum de récré, nous présente, lui, le cinéma, le majestique de Bellac. L'une des salles de l'hôtel-restaurant du Terminus a été aménagée en cinéma au nom pompeux de majestique. Ce local n'a pourtant rien de majestique et encore moins de majestueux. Contrairement à celui du moderne et luxueux Le Paris, le mobilier est constitué de séries de fauteuils métalliques soudés aux sièges basculants. Quand le public est nombreux, Georgette, la patronne, ajoute des chaises de café dans l'allée centrale et des bancs de bois destinés aux enfants qu'elle place à l'avant, immédiatement au pied de l'écran. Le lieu est bruyant et l'on peut suivre jusque dans la rue le dialogue des acteurs. Pourtant, quand la lumière s'éteint et que le rideau s'ouvre et qu'éclate la musique de présentation des actualités, on oublie l'environnement. J'ai une prédilection pour les grands espaces infinis des westerns où s'étirent les colonnes de chariots bâchés au pas des chevaux accompagnés d'air saccadé et conquérant. Peut-être le gamin que je suis établit-il un parallèle inconscient entre ces colons lancés à l'aventure dans un monde inconnu et neuf et l'enfant qui s'ouvre à l'avenir d'une vie à découvrir, mais pleine de promesses. Ici, c'est le domaine de l'imaginaire qui m'a inspiré pour la rédaction hebdomadaire « Raconter un rêve étonnant ». Je n'ai aucun mal à décrire la salle de cinéma ancienne en y ajoutant quelques détails insolites de vétusté, des coupures supplémentaires dans la projection et une bagarre finale entre spectateurs qui brisent le mobilier. C'est là que l'ouvreuse, copie conforme de Georgette, intervient brusquement en m'accusant injustement de tout ce saccage et en joignant à ses vociférations une gifle bien appliquée.
Autrefois pour faire sa cour, on parlait d'amour. Pour mieux prouver son ardeur, on offrait son cœur. Maintenant c'est plus pareil, ça change, ça change. Pour séduire le cher ange, on lui glisse à l'oreille. Ah, Gudule, viens m'embrasser.
Petites et grandes histoires de la basse marche.
Merci de nous avoir suivis pour cette nouvelle chronique des petites et grandes histoires de la basse marche, intitulée aujourd'hui « Quelques éléments de la modernité, jadis, en basse marche ». Pour les textes, nous l'avons fait en compagnie de Louis Peignot, de Charles Sylvestre, de Claude Lacan et de Jean Leur. Pour les accompagnements musicaux, nous avons fait appel au groupe Maluzerne, au compositeur René Aubry et Marc Perronne, aux chanteurs Yves Montand, Charles Trenet, Lucienne Delisle, Marcel Mouloudji et Boris Vian, que nous écoutons en ce moment. Je vous rappelle que la réalisation technique de cette émission est assurée par Philippe Quiquempois et Gérard Schillinger. Je vous donne rendez-vous le week-end prochain pour une nouvelle chronique des petites et grandes histoires de la basse marche. Ce sera une rediffusion, souterrains et cavités aménagées jadis en basse marche. À très bientôt donc, et très bonne semaine à vous tous.
Mon cire godasse, mon repas solimas, mon tabouret à glace et mon chasse filou, la tourniquette à faire la vinaigrette, le ratatine ordure.
Tous les week-ends, Claude Perronnet nous raconte nos histoires de vie, les racines de la région.
La belle se montre encore rebelle, on l'affiche dehors pour confier son sort au frigidaire à l'efface poussière.